Donc bien le bonjour à toutes et à tous. Pour équilibrer une mixité, il faut commencer par toutes et tous, c'est mieux. Surtout qu'il y avait, il y a pas si lointain, la journée de la femme. Voilà, en avril, ne te découvre pas d'un fil conducteur. Et enfin, elle arrive, l'apparition de l'édition du journal numéro 6 de Micro-Sillon Toulouse.
Et pour commencer cette émission du mois d'avril, la saga radiophonique de Rodolphe Orville, nous en sommes à l'épisode 19. Nous avions laissé Babylas introuvable et Jean-Pi possible complice. Écoutons sans plus attendre l'aventure pour enlever ce suspense insoutenable.
Je vous propose une nouvelle musique, Voyage au loin, composée par moi-même, Ludwig.
Et politiquesque, la politique, qu'est-ce que c'est? Raconté par Alban, de façon plus ou moins poétique.
Et ensuite, notre chroniqueur préféré, Clémenté, qui présente un morceau de Marty Robbins, El Paso.
Ainsi, élevage de poulets dénoncé par l'association L214.
Puis, un billet de Clarisse sur la question de la folie et de son rapport aux médias. Qui est fou, qui ne l'est pas? Ces textes interrogent la place des personnes qu'on catégorise folles.
Et on continue encore et encore. C'est que le début, alors. Donc, avec l'interview dans le cadre du festival Les Utopiennes, par Vincent et la participation de Nabi où on a interviewé la Frédérique, une bénévole qui est membre fondatrice de l'association Un lieu pour l'utopie. Et cet événement avait lieu en campagne et c'était un bon moment avec une ancienne adhérente également qui était présente. Voilà.
Et un morceau de moi-même, Olivier Serra. Je présente mon morceau qui s'intitule So Good. C'est un morceau tiré d'un sample des Peach Boys. Don't Make Me Wait, le morceau. Et c'est de la house music.
Et on termine, comme d'habitude, l'émission avec la série philosophique d'Alban Rock. Avis aux cérébreux et aux gens qui doutent, nous allons mettre des cartes sur table.
Merci d'avoir écouté et à une prochaine. Bonne écoute.
Bye bye, ciao.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 19, Jean-Pi prisonnier chez lui. Résumé de l'épisode précédent, Babylas est introuvable, Mais pour les autorités, pas de doute. Jean-Pi est complice. On s'apprête à mettre ce dernier en prison, mais Barbara intervient royale et prend la défense de Jean-Pi.
Minouche va faire quelques courses pour le déjeuner des trois prisonniers. Après, elle se dépêche de partir, car le train va bientôt arriver, et elle doit être à son poste de garde-barrière. La journée s'écoule lentement. Dans la rue, devant la porte de Jean-Pi, l'un des motards monte la garde. L'autre circule sur sa moto autour du pâté de maison. De temps à autre, le maire vient voir si ses consignes sont observées. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent dans la ville et aux environs. Mais naturellement, on ne trouve aucune trace de Babylas. Tout le monde est vite au courant de l'aventure de Jean-Pi. Et dans l'après-midi, les visiteurs défilent. C'est d'abord Nicolas, le journaliste, puis Muguet, le chauffeur de Barbara, et puis d'autres amis. Chacun apporte un cadeau, un livre, des bonbons, des fruits, pour aider ce pauvre Jean-Pi à supporter sa captivité.
Barbara revient en fin d'après-midi. Qu'elle fait des démarches pour qu'on libère Jean-Pi dès le lendemain.
Après elle, arrive Minouche portant un panier rempli de provisions. Jean-Pi, seul chez lui, passe une soirée morose. Babylas et Capucine essayent bien de l'amuser par leur tour et leur cabriole, mais Jean-Pi reste soucieux. Oh. Pourvu que Barbara puisse le faire libérer, comme elle l'a promis. Hélas, le lendemain matin, sa porte est toujours gardée. Et pour aggraver la mauvaise humeur de Jean-Pi, le ciel se couvre de gros nuages noirs tandis que le vent se lève. Par la fenêtre, Jean-Pi voit la rue où les enfants se hâtent. Les animaux familiers sont restés chez eux. C'est à peine si, de temps à autre, on voit un chien rôder le long des maisons. Place du marché, le kangourou, agent de police, vêtu d'une cape en toile serrée, court se réfugier sous le kiosque musique. Si gai sous le soleil, La petite ville de Bourg-la-Fleur paraît aujourd'hui tout de triste.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Spinoza traitait la réforme de l'entendement, suivi des principes de la philosophie, de Descartes et de pensée et métaphysique, mais des textes de la nature aussi. Force de la substance et de ses affaires.
Et donc j'héberge Émile et Maïs chez moi.
Oui, à qui tu parles, tu vois?
Probablement une sorte d'audience derrière le quatrième mur.
Ah oui.
Le lendemain matin, au moment de partir.
Une fois.
Qu'est-ce que j'ai bien dormi?
Idem.
Tu ronfles pas une fois?
Mais le reste du temps, si.
Mais là, c'est sans fait une fois. Bon, ben, salut Nicolas.
Ciao, ciao.
Ben, elle est où la sortie?
Sommeil. Je vais retourner dans mon lit, moi.
Ben, elle est derrière la table de la piole et oula, il n'y a plus de porte. Il n'y a pas d'issue.
Coucou, Nicolas.
Tiens, je pensais pas que tu avais une petite amie, Nicolas.
Oh non, c'est pas une petite amie. C'est la petite amie de ceux qui n'en ont pas.
Ah, Monica, tu m'as à nouveau eu. Je suis sans défense. Mais il faut bien que je leur ouvre la porte avant que tu ne me cloues au lit.
Faut que je lui fasse un thé. La société désintégrée nous isole tous petit à petit et les gens mal d'affection et de motivation, comme Nicolas...
Aujourd'hui t'es plus fort vu que tu es avec d'autres. Tu me résistes?
Mais je ne veux pas te résister, Monica. Émile et Maëlys ne vivent pas ici.
Et pourquoi pas, non?
Elle a fait disjoncter.
Tiens, Monica, tu ne nous... Tu ne mourras pas. Heureusement qu'il y a du temps ici. Idée des intérieurs, restaure les portes de sortie de cette chambre ou je te bipe le nez.
Oh non, pas le nez avec le teint. J'ai remis les portes, d'accord? Pas la peine de me faire vomir.
Tu dis ça après avoir fait les disjoncter. Nicolas, elle va voler mon premier baiser. Merci de nous sauver, Maëlys.
Je m'en vais retrouver Nico pour finir le débat de cet épisode.
Ah.
Ah oui, la désintégration sociétale.
Donc, il faut recréer une nouvelle société pour éviter que Monica ne règle une mission.
Sur nous tous. Oh, substance que Monica est molle et douce.
T'aimes les chatouilles?
Oh non, pas sous le drap.
Pia, elle a mis le bol de teint dessous.
Je l'ai eu.
Merci, Maëlys. Je pensais pas partir à la fin de l'après-midi. Je vais vous suivre, d'ailleurs.
Vous écoutez Micro-Sillon sur cette bande FM.
Élevage industriel de poulets. Aujourd'hui, je peux vous parler de la maltraitance des poulets élevés en batterie et dans des bâtiments sans fenêtres. 83% des poules ne voient jamais le jour. Ils ne connaissent pas l'amour maternel, ils sont élevés dans des conditions déplorables et doivent être acheminés vers l'abattoir au bout de 5 semaines. Leur litière n'est jamais changée durant leur existence, et cela sans l'ammoniac. Au bout de 3 semaines, beaucoup d'entre eux sont infimes et ne peuvent plus se rendre à l'abreuvoir et au mangeoir s'alimenter. Et à la fin, ils sont emballés à l'aide d'une machine qui les jette brutalement dans des conteneurs destinés à l'abattoir. Ils ne sont pas soignés comme il le faudrait. Pas le droit de sortir prendre l'air et de se défouler. Une fois arrivés à l'abattoir, ils sont pendus à l'agonie et c'est une mort lente. L'éclairage artificiel en permanence et monnaie courante dans ces hangars où sont élevés les poulets destinés à l'abattoir, c'est une consommation d'électricité néfaste pour la santé de l'animal. Cela augmente le stress et cela contribue à un impact sur l'environnement. L'association L214 a publié un document permettant de signer une pétition en ligne et je l'ai lu dans son intégralité. Il s'agit de l'élevage intensif inadmissible.
Merci d'avoir écouté la chronique de Philippe Charc.
Micro-Sillon.
Depuis quelque temps, je me sens sensible à l'image des personnes vivant avec un handicap psychique, les dits fous au sein de la société, et à la manière dont les médias s'en emparent, mettant souvent la folie au même rang que le terrorisme. Qui n'a jamais comparé une situation à de la schizophrénie, ou dit quelque chose du genre d'enfermer quelqu'un chez les fous? Et j'en passe, moi la première. Cette semaine, j'ai encore entendu quelque chose dans le genre. Mais là, c'était la fois de trop. C'est quoi ce délire de mettre quelque chose qui ne va pas avec les fous et leur asile? Vous savez que les personnes vivent un trop-plein, une angoisse, une crise, qui leur permet alors de supporter la réalité? Et la folie du monde, on en fait quoi? On se tromperait pas de fou par hasard? Et puis, comme le dit Mathieu Chédid, ne serions-nous pas tous un peu fous? Pas sûrs de nous du tout? Allez, comme on dit, faire un séjour en hôpital psychiatrique n'est pas anodin. Ça peut être en lien avec un état de décompensation, un mal de se vivre tellement fort que seul un lieu tel que celui-ci peut apaiser les angoisses. Donc là, je me trouve à l'arrêt avec cette nouvelle réflexion sur la place des fous. J'hésite à lui dire que j'ai passé 2 ans dans un hôpital de jour spécialisé en psychiatrie. Parce que oui, les personnes en souffrance psychique font aussi partie du monde, ailleurs qu'à l'asile. Elles font partie de la société. Comme en parle Valérie Delattre, qui est archéo-anthropologue, c'est pas nouveau. Elle affirme que le soin porté aux personnes en situation de handicap remonte aux sociétés les plus anciennes. Bref, j'ai envie de le foudroyer de regard. Je sens surtout de la colère qui me donne envie de lui fourrer mon doigt dans l'œil à cet ignorant. Et puis, là, je sens une tristesse. À quoi bon ? J'ai foutrement peur de la folie, peur d'être folle. Oui. Alors, je remets mes mèches folles et avec ma fourgonnette, je vais défaire la tâche de ces foutaises. Travail de fourmi, à coups de fourchette, ça tourne dans ma tête. Douce caresse d'herbe folle. J'entends parler de Foucault et l'histoire de la folie. Je lis sur ces sujets. Enfin, ça fait pop dans mon cerveau. Le pop-corn a éclos. Pourquoi est-ce que le mot « handicap » serait-il forcément lié à une incapacité? Pourquoi ne serait-il pas vu comme une différence dans le rapport au monde? Pourquoi pas vivre avec un accès aux mêmes droits, à la même citoyenneté et d'être dans le monde avec sa singularité? Alors oui, j'entends bien, hein, ça a l'air très utopique. Mais chaque individu a une richesse à offrir au monde. Alors je comprends que la place des fous n'est pas dans un asile ou dans un milieu clos. Je me suis fourvoyée. Donc ma place est tout autant que celle de n'importe quel autre individu dans la cité. Tout individu a une façon singulière d'être au monde. Pour certains, c'est plus facile que d'autres que de faire partie de la société. Lorsque j'ai été hospitalisée, je suis passée par la phase « j'ai peur de rester dans cette institution à vie ». Et puis aussi par la phase « c'est un cocon bien douillet et je veux rester là à vie. Dehors, c'est trop difficile d'y vivre. » Même si la discussion autour de la fin de l'hospitalisation a été mise en route quelques mois en amont de ma sortie, cela a été un moment très difficile. Que vais-je faire? Recommencer la vie que j'avais menée et retour à la case d'hospite, c'est ça? À l'époque, c'est ce que je me suis pris dans la face et que je comprends juste maintenant. C'est à partir de ce moment de la sortie d'hospitalisation que tout commence. J'avais posé des balises avec un suivi en ville, minimum 2 fois par semaine pour le travail psy. Et heureusement, j'allais déjà dans les GEM, où, de patiente, j'ai pu devenir actrice. Un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est une association de loi 1901, j'y suis adhérente, tout comme 13 millions de Français sont adhérents dans des associations. Ils permettent à des personnes se vivant dans la solitude et ou avec un handicap psychique de prendre part à la cité. L'asile, devenu maintenant l'hôpital psychiatrique, ne permet pas à l'individu d'exister ou d'exprimer un désir, tout comme de nombreuses institutions. Les GEM, eux, sont des lieux de transition entre le milieu du soin et la société, une sorte d'entre-deux. Chaque GEM est géré par ses adhérents, comme toute association. Faire ensemble et apprendre à être soi. Je ne comprenais pas comment vivre dans cette société. Je me sentais en décalage et folle alliée. J'ai enfin trouvé un type d'association qui m'accueille comme je suis et qui me permet d'expérimenter le champ social. En ce moment, je participe à l'organisation des semaines d'information sur la santé mentale qui est organisée par la mairie de Toulouse avec d'autres acteurs de la santé mentale. Par cette représentation, cela montre que nous aussi, vivant avec une sensibilité psychique, nous faisons partie de la société.
La 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 la. Ici, vous écoutez Microsillon.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Bonjour, me voici pour une énième interview dans le cadre des Utopiennes, le festival qui fête ses 10 ans de l'association Un lieu pour l'utopie. Donc je suis avec une participante bénévole. Je vais la laisser se présenter.
Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis parmi les membres fondateurs de ce projet puisque je fréquente la ferme de Biesse depuis plus de 40 ans et que je suis à la naissance du concept des utopiennes puisque j'ai proposé à Martial et Michel de créer ce moment festif pour à la fois bien sûr faire connaître le projet social et de la ferme et de son association et l'idée de la musique et de faire découvrir toutes les musiques.
Découvrir la musique, donc c'est un esprit à peu près, on va dire, international. Mais après, est-ce qu'il y a derrière, j'ai vu dans les plaquettes, il y avait un projet d'insertion aussi.
Oui, alors bien sûr, le festival se tourne autour des musiques, mais le projet central d'un lieu pour l'utopie, en effet, c'est l'insertion. L'insertion de personnes en grande difficulté et l'insertion de personnes et l'accueil de personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature de leur handicap, pour leur permettre de venir respirer, de reprendre de l'énergie dans ce lieu quelque peu magique.
Privilégié, je dirais, puisqu'on y est, ça se voit pas, mais là, toutes les personnes qu'on a pu croiser ont un smile, mais là, ça dépasse les oreilles.
Oui, privilégié par son environnement et puis privilégié par l'énergie très positive qu'il y règne pour chacun d'entre nous, que nous soyons bénévoles ou que nous, pour les personnes que nous accueillons.
Il faut savoir qu'on est dans le Lauragais, c'est une région très agréable parce qu'elle est légèrement vallonnée, mais en même temps, il faut penser que pendant la guerre, c'était le grenier à blé et à poulet de Toulouse.
Bah, c'est une très très belle région, c'est tellement une belle région que je viens d'y acheter une maison et étant parisienne, j'ai décidé de venir m'y installer définitivement pour la dernière partie de ma belle vie, j'espère, auprès de tous mes amis et pour être encore plus active auprès de l'association.
Mais c'est génial. Alors, comment t'es venue, d'abord, le nom Utopie, pourquoi?
Alors, Utopie, ça c'est Martial, parce que si on n'a plus une part d'utopie au sein de notre tête, comment être créatif? Et donc, l'utopie, c'est le fondement même de notre pouvoir créatif à tous.
L'utopie, normalement, c'est pas réalisable. Pourtant, vous avez créé quelque chose d'absolument extraordinaire.
Alors, extra de l'ordinaire, oui. Notre objectif, ce n'est pas Notre objectif, c'est surtout de lancer des projets et de les mettre sur les rails. C'est très gentil de nous dire que nous avons réussi.
Non, je suis
réussi.
Pas gentil, je suis quelqu'un de très méchant.
Nous avons réussi à notre petite échelle on en tire, c'est vrai, une certaine fierté. Quand on accueille aujourd'hui plus de 400 personnes, c'est-à-dire plus du double, par exemple, que l'année dernière, et donc ça veut dire que demain on sera certainement encore 4 fois plus, donc c'est formidable, mais on a encore beaucoup de chemin à faire.
Ce n'est plus une petite échelle, c'est un ascenseur là que tu es en train de parler.
Il faut rester modeste. Le principe c'est d'égrainer ce genre de projet et que ça donne envie aux autres de le faire avec l'énergie qu'on a pu y mettre chacun d'entre nous individuellement.
Est-ce que vous avez pensé ensemble à essaimer ce produit, hein, ce genre de marketing et l'exporter dans d'autres régions, dans d'autres pays?
Alors, non, on ne l'exporte pas en tant que tel. Par contre, on reçoit souvent des personnes qui viennent se nourrir de notre propre expérience. Nous n'avons pas la possibilité de nous externaliser bien au-delà du Lauragais, mais on reçoit régulièrement des personnes. On reçoit des personnes en Afrique et ailleurs.
Quelle a été l'évolution d'année en année? Ça fait 40 ans que vous y êtes. Que pouvez-vous pouvez-vous nous dire par rapport à l'évolution qu'il y a eu du tout début où vous êtes installé et voilà, comment ça s'est déroulé?
Alors ça s'est déroulé par découvrir tous les corps de métier du bâtiment, parce que quand nous avons récupéré cette ferme, je dirais pas qu'elle était à l'état de délabrement, mais il y avait pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, pas de chauffage, donc...
Personne, à part des pigeons, des rats et des souris.
Voilà, à peu près, donc on a appris à monter des murs, à faire du ciment, à monter des radiateurs, avec... à faire du parquet, à faire de l'isolation, enfin tous les corps du bâtiment. Et puis, un jour qu'on a eu fini de rendre ce lieu vivable et agréable pour nous tous ici présents, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse profiter de ce magnifique espace pour en faire profiter les autres.
Je vais être très terre à terre. Comment vous avez financé ce projet?
Alors, ça, il faut demander à Martial, je pense.
Mais il y en a marre d'arrêter de demander à Martial.
Non, parce que je crois que c'est l'argent de sa grand-mère. Je crois que c'est l'argent de sa grand-mère qui lui a permis d'acquérir cette ferme en 1973.
Et d'ouvrir son cœur et de le partager, parce que c'est génial. Effectivement, c'était entre 73. C'était Giscard, c'était plus que de l'utopie, c'était irréalisable.
On est des postes baba.
Bah oui, justement, c'est pour
clairement
ça que...
Et concernant le pourquoi des personnes handicapées, vous avez fait vœu.
Alors, comment c'est venu? Parce que l'idée de la différence et du respect des différences, c'est, je dirais, au cœur de notre besoin. Le besoin de l'autre et c'est parti de ça et puis après c'est le hasard des rencontres, le fait qu'il y ait dans la région un certain nombre aussi de foyers, donc en se rapprochant les uns les autres, voilà, c'est venu au fur et à mesure, mais surtout d'abord par le respect de la différence.
Alors la vraie question là maintenant, c'est quoi la différence?
Eh bien la différence c'est de penser que chacun est un et unique, et dans ce sens-là, de le respecter pour ce qu'il est, et de le prendre dans son entièreté.
Waouh! Il va falloir que tu deviennes prof, moi j'étais prof, c'est doux. Non, mais c'est génial. Ce ne sera pas coupé, hein, je tiens à le dire, mais ce sont des paroles presque magiques, c'est des paroles réfléchies ou spontanées?
Ah non, c'est des paroles tout à fait réfléchies, sur lesquelles, oui, j'ai réfléchi personnellement, et c'est pas quelque chose qui... Ça barre des tripes, et puis après on essaye de les conceptualiser, oui. Les tripes, les cœurs, la tête.
Et ben voilà, c'est super, c'est génial. Je tiens à préciser qu'elle a un smile, elle a un charisme, c'est quelque chose de dingue, c'est merveilleux. Hein. Alors, elle a 14 ans dans sa tête, hein, on ne va pas donner son âge. Elle est merveilleuse, elle a un super regard. Je voudrais, je ne sais pas, rajouter une chose. De quoi vous auriez besoin aujourd'hui?
On a toujours besoin de son œuf. Parce qu'il faut savoir sans arrêt...
De son œuf, tu parles des poules ou...
Non, je parle des individus, parce que pour mener des projets, il faut de l'énergie et...
Et des idées.
Et des idées, et c'est pour ça qu'on a besoin de son œuf en permanence, pour nous apporter des nouvelles idées, pour nous apporter de l'énergie, et pour... Parce que le but, c'est de faire perdurer ce projet, et qu'il faut être dans la transmission. Donc, de fait, on a besoin sans arrêt que de nouvelles personnes viennent enrichir ce projet.
Mais j'ai envie de dire quelque chose. Tu parles de nouvelle énergie, mais c'est Martial et toi qui en donnez de l'énergie.
Bien sûr, on en donne, mais je pense qu'en montrant notre énergie, ça stimule aussi les autres personnes en face qui, je dirais, par effet miroir, viennent agrémenter la nôtre. Et donc, voilà, et je dirais qu'il faut d'abord de l'énergie avant de l'argent. Bien sûr, après, soyons objectifs, hein. Aucun des projets ne peut se construire sans un minimum d'argent, mais il faut d'abord l'énergie.
L'énergie qui amène à l'adhésion.
qui amène à l'adhésion du projet, et puis après chacun, ce qui était aussi le projet initial pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici c'était un lieu de vie totalement ouvert où chacun venait absolument gratuitement et apportait sa force. Alors sa force de travail, si c'était un manuel, il apportait sa force manuelle, si c'était un intellectuel, il apportait sa force intellectuelle, et c'est en fait de toujours de ça dont on a besoin.
Et avec des Espagnols, pourquoi tu parles des manuels? Hein? Et il y avait les Sanchez aussi, non, il y a des menuisiers, parce qu'on est quand même à côté de Rebelles, c'est le pays de la menuiserie.
Et moi, je voulais vous demander par rapport à la vie parisienne et le fait de venir en campagne comme ça, c'est comme quand on voyage d'un pays à un autre, c'est assez dépaysant. Que pouvez-vous en dire?
Alors, c'est exactement le bon mot que vous avez utilisé, c'est-à-dire qu'ici, on est ailleurs. Et c'est terrible quand on repart d'ici, quand le petit avion ou le petit train arrive sur Paris, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et c'est un lieu ressource, en effet, c'est-à-dire que quand, pour une raison X ou Y, on a besoin de se ressourcer, eh bien, on vient là parce que c'est un ailleurs.
C'est une fontaine de jouvence.
Jouvence, je sais pas.
T'as pas ton âge, t'as 14 ans.
Je sais pas si c'est une fontaine de jouvence. En tout cas, c'est un espace-temps formidable dans la vie trépidante que peuvent mener, en effet, les Parisiens.
Le mot est très bien dit, l'espace-temps. Parce qu'en fait, ici, aujourd'hui, on a vu des enfants, des bébés, des personnes beaucoup plus âgées, mais ils ont tous le même âge. C'est bizarre, hein?
Ah ben, complètement. Le temps, il y a quelque chose qui fait qu'ici, c'est un peu comme si le temps s'arrêtait. Et dans un espace sans fin, puisqu'on a une vue absolument magnifique, qu'hélas, les auditeurs ne peuvent pas voir.
Non, ils ne le voient pas, mais ils l'entendent à travers ta voix.
Voilà.
Et la mienne, parce que c'est vrai que là, je suis absolument enchanté de ce que j'ai rencontré aujourd'hui. C'est absolument surprenant. Et ça donne envie de continuer, de se lancer, de vous encourager. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais laisser plutôt la parole à Vincent, parce qu'il est aussi impressionné que moi.
Concernant ce festival, c'est la 10e édition. Comment vous arrivez à développer la communication, vous qui avez été dans la communication? Ça, c'est un plus, ça aide par rapport pour faire connaître ces utopiennes.
Oula, alors il n'y a pas de... La meilleure recette, c'est le bouche-à-oreille. Pourtant...
La satisfaction, parce que je pense que tous les gars qui vont partir d'ici, parce que tu fais du commerce, un client insatisfait, c'est 10 clients qui partent, un client satisfait, c'est 4 qui viennent. Mais là, je pense que c'est encore plus fédérateur, parce que c'est les 1 qui est content, il y en a 10 qui vont venir.
Tout à fait. Chaque personne qui est venue une fois, on parle après derrière elle, et ça fait un effet boule de neige formidable. Donc, les quantités d'outils de communication, si on veut parler technique, ils sont quasiment les mêmes depuis le premier jour. C'est bouche-oreille, c'est...
Ils ont inventé un mot, le marketing viral, mais dans viral, il y a virus, c'est contagieux, mais là, il y a une véritable contagion, mais dans le bonheur.
Contagion, il y a 10 ans, hein, ça n'existait pas les réseaux sociaux, ben, on a fait notre réseau social sans le savoir.
Le web avant les autres.
Ouais, le LinkedIn d'un lieu pour l'utopie dans les autres.
Yes, on va parler comme là tous les deux, you speak English. Alors, tu as dit tout à l'heure, et ça j'adore, tu as travaillé pour RFI.
Oui.
Et tu t'es déplacé à travers le monde ou
non,
t'étais
Radio France
internationale à Paris?
Je suis restée dans la belle...
Radio France française internationale.
J'étais dans la belle tour ronde. J'ai jamais eu l'opportunité d'être porteur sur d'autres pays que sur notre pays. J'animais des émissions scientifiques et la découverte de sport pour un créneau horaire pour l'Afrique. Et c'était assez rigolo, parce que là aussi, c'est respecter les différences, c'est-à-dire parler de sport qui nous sont tous familiers en France, pour des personnes qui nous écoutaient en Afrique, qui ne pouvaient pas avoir idée de ce que pouvait être le football américain, la chasse aux canards, par exemple, ou le water polo.
Je suis d'origine tunisienne, né à Toulouse, mais je sais que quand j'allais en Tunisie, ma radio préférée, c'était RFI.
Bah forcément, parce que RFI, c'est une radio absolument formidable, puisque personne ne connaît les journalistes, il ne peut pas y avoir d'égo de journalistes dans cette radio, et donc ça aide.
t'es pas BFM, quoi.
Pas vraiment.
Non, mais là, je tiens à te remercier parce que on l'a interpellée pour qu'elle vienne 5 minutes. On en a à 15. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne
à vous.
Chance. Bonne continuité.
Merci.
Et je ne vais pas dire courage parce que t'en as. Et fais le partager aux autres.
Merci.
Vas-y, fonce.
Merci.
Juste avant, si vous avez quelque chose à ajouter, une promo peut-être ou, hein.
La promo, écoutez des radios qui ont un message alternatif, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Écoutez nos amis qui nous interviewent, l'association Micro-Sillon qui nous fait le plaisir de nous accompagner sur ces deux jours. Vous savez, une fois que vous avez une communicante sur le dos, vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi. Nous, on n'a pas envie de vous débarrasser de vous parce que c'est aussi avec des gens comme vous qu'on fait avancer les projets.
Allez, c'est génial. Vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
Au revoir. Bien sûr, au revoir.
Des interviews diverses et variées. De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31, Vincent, je.
Mais qui pense les sons ?
Micro-Sillon !
Nous sommes des Shadocks. Nous ne regardons pas la télé Gibi à l'heure de Néophilomoué. Épisode Zomemeu. Les huit cerveaux et Descartes. À l'épisode précédent, on a appris que la théorie milsonienne rentre dans la cosmogonie des quatre grands féeries, qui elles-mêmes rentrent dans les divagations de Claude Piedbu à propos d'oiseaux qui ont caricature. À un moment, j'ai lu les principes de la philosophie de Descartes, de Spinoza, et dans ce dernier, Spinoza met à jour le fait que quand Descartes a voulu formuler le « je doute, je pense, donc je suis », il a voulu dire qu'entre guillemets, il voulait éviter de se tromper. Il désirait comprendre clairement beaucoup de choses. Il doutait de tout ce qu'il ne pouvait concevoir clairement. Jusqu'à présent, il n'avait affirmé qu'à une seule vérité. Il niait tout le reste et le rejetait comme faux. Il imaginait, malgré lui, beaucoup de choses. Enfin, il observait beaucoup qu'il semblait venir des sens. Et que chacune de ces affirmations impliquait un mode de pensée. Ne pas vouloir, vouloir, comprendre, douter, affirmer, nier, imaginer et sentir, dans l'ordre. Ces modes de pensée sont au nombre de 8. Donc qu'est-ce que mon esprit discordianiste a voulu en faire ? Allouer ces modes de pensée aux 8 cerveaux. Arriver à le faire signifierait construire un nouveau pont à un niveau très bas et intime entre l'occultisme wilsonien et la plus pure science et la philosophie. Y aurait-il réellement un lien ? Bien sûr, c'est une question rhétorique. Si je n'avais pas réussi, je n'aurais pas écrit un article dessus. Au début, prenez cerveau. On a la fonction la plus primitive. Le doute cartésien est méthodique, le cogito ergo sum d'où est originaire toute pensée. Pour éviter la mort, le premier cerveau étant le cerveau de survie, il faut être mutatis mutandis, mutant éternel, et donc douter de tout ce qui n'est pas, nier la stabilité de la rigueur cadavérique. Deuxième cerveau, le premier conflit apparaît, la guerre rage. Et le premier conflit est celui qui oppose injustement l'émotion et la logique et qui engendre dans la douleur la raison. Après avoir médité les yeux fermés sur le cogito ergo sum, l'être pensant ouvre les yeux, les oreilles et le reste de son corps aux informations sensorielles. Sentir brise la méditation première et amène le conflit, la bagarre et la politique. Le deuxième cerveau, l'émo-territorial. Et moult animaux utilisent des marques odorantes pour délimiter leur territoire. Troisième cerveau, l'ego se développe. C'est le début de la philosophie et donc la découverte consciente du cogito ergo sum. C'est la seule affirmation possible et il se trouve que l'ego a le pouvoir d'affirmer. L'ego rassemble les sensations, les émotions et les bras avec la logique pour tirer des informations. Et de la collision de toutes ces choses viennent l'imagination et la créativité. Quatrième cerveau, l'ego est aux portes de la découverte d'autrui, s'affirmant soi dans un monde de sensations. Quelle est l'expérience ultime de la sincérité ? Le sexe. Pour comprendre réellement qu'il existe un autrui, il faut percevoir ses énergies par rapport aux siennes, par le tantra, mais l'ego ne peut le découvrir sans l'esprit. C'est ainsi qu'on peut intuitivement comprendre que le soi n'est pas l'origine de toutes les énergies du monde, car ces énergies sont clairement autres et pas siennes. Cette compréhension ouvre un nouveau monde, un monde d'altérité, d'émotion et d'incertitude, les quatre cerveaux inexplorés. Cela amène une nouvelle pensée, l'esprit, au contraire de l'ego, et il est sans équivoque que penser et imaginer sont une seule et même chose, par l'existence de Dieu. Se réimaginer permet de muter et imaginer autrui sous un angle tantrique au lieu de balbutier de manière incohérente avec son corps. Pour donner une matérialité à cette pensée et l'abondance dans le partage, il faut savoir les désirs des autres pour les satisfaire. Quel est leur vouloir ? C'est ce que faire partie du cercle conscient de l'humanité fait, en s'intéressant aux esprits des gens et des choses. Ils goûteront à la richesse infinie et à la fin de toute politique et tout conflit. La fin de tout conflit amène la suprématie de l'amour, où on peut enfin douter de l'existence d'autrui sans le blesser. Es-tu vivant ? Oui, je le suis. Moi aussi je change. Répétition perpétuelle de la bonne nouvelle. Réjouissance infinie, mutante et génétique, soi et autrui, enfin réunis en Dieu. Et au moment où soi et autrui se retournent enfin, main dans la main, marchant vers Dieu, la dernière chose à acquérir est la vision cosmique, voir par les yeux de Dieu. En voyant par les yeux de Dieu, on peut balayer d'un seul revers de main toutes les illusions du néant et du négatif, et enfin réfuter leur existence, définissant la seule chose dont on ne veut pas et rendant la substance sa pureté. Et ainsi roule la roue de la pensée cosmique et du chaos. Maintenant, quand on pensera aux 8 rayons du chaos, on pensera également à Descartes et son cogito ergo sum. On continuera de vous parler de ces circuits le mois prochain.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.